Bonjour, je suis Charlène Petit et vous écoutez le podcast engagé qui rime avec générosité. Si vous voulez encore plus de contenu, venez découvrir ma newsletter Vitamine G. Au menu, des histoires de dons, des recommandations, des décryptages sur l'actualité philanthropique et parfois des contenus invités. Pour s'abonner, rendez-vous en description ou au www.philanthropio.com. Cette saison est sponsorisée par Altrui, une association 100% digitale qui a pour mission de promouvoir l'engagement associatif en conjuguant la générosité au « nous », puisque Altrui est la contraction du mot « altruisme » et du pronom anglais « oui ». En effet, depuis 2022, Altrui ne cesse de nous montrer que la philanthropie peut être une aventure joyeuse et collective, à travers des événements caritatifs remarqués et remarquables. Parmi eux, le podcaston, dont je vous ai beaucoup parlé ici, et qui s'apprête à devenir international. Altrui fait le pari de la croissance au-delà de la francophonie pour démultiplier la portée de l'audio au service du bien. Souhaitons leur bonne chance et rendez-vous en 2025 pour la troisième édition.
C'est le nouveau Rockefeller, un philanthrope.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ils veulent changer le monde.
Quelle drôle d'idée!
Dans un esprit philanthropique.
Vous pouvez répéter?
Philanthropique. Philanthropique.
Je vais donner un peu de pognon.
Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût, donc, qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. »
S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Un merci tout spécial à RZN Radio qui m'a accueilli chaleureusement dans ses studios pour enregistrer cet épisode lors de ma dernière virée parisienne. La mission d'RZN est de prendre soin de soi, des autres et de la planète. Alors si vous n'avez encore jamais écouté, garochez-vous comme on dit en bon québécois. Surtout par les temps qui courent. Aujourd'hui, je reçois non pas un, mais deux invités. Ils sont entrepreneurs chevronnés et membres du réseau Entreprendre et Plus, une alliance de philanthropes dédiée à l'accompagnement de projets à impact social en offrant du mentorat, du financement et du soutien entrepreneurial. Il s'agit d'Éléonore Patry et de Cédric Selin, un binôme particulièrement convaincant sur les vertus de la philanthropie active. Je les ai notamment interrogés sur ce qui fonde cette méthode directement héritée de la venture philanthropie à l'américaine, des projets qu'ils ont participé à faire aboutir et surtout sur ce que leur engagement leur a apporté dans leur vie. Bonne écoute! Bonjour Éléonore, bonjour Cédric.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation à parler de philanthropie à travers le prisme de l'entrepreneuriat. Je vais vous présenter rapidement Éléonore. Toi, tu t'es formée à l'École supérieure des sciences commerciales d'Angers en marketing avant d'évoluer comme directrice marketing et commerciale pendant 15 ans. Issue toi-même d'une famille d'entrepreneurs, tu as lancé plusieurs entreprises en fait. En l'occurrence, tu as créé et revendu deux PME. Et aujourd'hui, tu es investisseuse et cofondatrice de 1987, une entreprise de conseil en transformation RSE. Cédric, toi, tu es centralien de formation. Tu as fait l'essentiel de ta carrière dans la Silicon Valley et à Londres. Et après une carrière fructueuse d'entrepreneur issu de la Net Generation, tu as décidé de consacrer une partie de ton temps et de tes ressources à soutenir des entrepreneurs sociaux. Vous représentez tous les deux la nouvelle génération de philanthropes qui se caractérise par une approche plutôt entrepreneuriale et stratégique de la philanthropie. Et depuis respectivement 5 et 6 ans, vous êtes investis dans le réseau Entreprendre et Plus, une alliance qui rassemble une quinzaine de philanthropes déclencheurs d'impact social. Depuis 2009, ce sont plus de 3 millions d'euros de dons collectés auprès de 23 philanthropes au bénéfice de 13 organisations accompagnées. Alors c'est un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, du réseau Entreprendre et Plus, qui fédère donc tous ces philanthropes dont vous faites partie. Et on va parler aussi de votre expérience en tant que philanthrope et de la manière dont se concrétise votre engagement auprès des entrepreneurs sociaux. Alors pour commencer, quelle était votre expérience de la philanthropie avant d'intégrer le réseau Entreprendre et Plus et qu'est-ce qui vous a motivé à le rejoindre?
Ok, je vais démarrer. Pour ma part, elle était très faible, voire inexistante. J'ai connu la philanthropie à travers Entreprendre et Plus. J'ai eu une habitude de l'associatif. J'ai toujours été plus ou moins bénévole, selon les périodes, selon ma disponibilité. Par contre, je suis venue à la philanthropie notamment à travers le mentorat. Et donc, ce qui m'a particulièrement plu chez Entreprendre Plus, et la raison pour laquelle je suis venue dans cette organisation, c'était vraiment pour le mentorat.
D'accord. En fait, c'était le bénévolat de compétences essentiellement qui t'a attiré dans cette approche-là.
Oui, c'était l'idée de rajouter au don l'exigence qui peut être apportée par le mentorat et par l'accompagnement, en fait.
Et toi, Cédric ?
Alors moi, j'étais en France, donc je n'avais aucun lien tout avec le monde associatif ou même le concept de philanthropie. Ensuite, je suis allé à Stanford. Et là, en sortant de Stanford, il me demande de faire un chèque. Donc je me suis dit, c'est un peu bizarre quand même. Parce que déjà, avec ce que j'ai déjà payé, c'est bizarre qu'il me demande de l'argent. Et en évoluant en fait dans la Silicon Valley et en ayant eu un peu de chance, je me suis rendu compte à quel point, en fait, dans la culture américaine, c'était vraiment... tu as eu de la chance dans ton parcours entrepreneurial. C'est donc normal de rendre à la société. Et là, j'avais fait des dons à Central, et aussi on avait construit une école au Malawi avec Bill Dunn. Mais c'était des actions qui étaient assez one-off. Alors désolé pour les anglicismes, c'est assez courant pour moi. Et quand je suis rentré en France en 2015, et que j'ai eu une société dans laquelle j'avais investi, qui a fait une belle sortie, je me suis dit, c'est l'occasion de structurer un peu ma philanthropie. Donc on a créé un fonds de dotation familiale, on implique les enfants, et l'idée c'était de donner de manière plus régulière et dans la durée. C'est pas nécessairement des sommes énormes, mais d'essayer d'avoir un impact social dans la durée. Et c'est là où j'ai rejoint Entreprendre Plus, pour rajouter un peu la dimension mentorat et pas juste transfert d'argent.
D'accord. Moi, ce que tu soulignes, c'est que dans la culture nord-américaine, c'est effectivement très courant de redonner à la société, mais on redonne d'abord à son alma mater.
C'est assez courant. C'est pour ça aussi que je donne un coup de main à Central, Supélec, pour essayer de lever des fonds, parce que c'est vrai que culturellement, il y a une énorme différence. Et donc aujourd'hui, moi, mon implication sur la partie philanthropique, c'est avec Epic. J'utilise Epic pour sélectionner des projets internationaux. Central Supélec, où j'essaie de donner un coup de main pour faire bouger les lignes sur les responsabilités que les élèves ont vis-à-vis de l'école. Et Entreprendre Plus, où on a une super alliance pour faire un changement systémique dans l'écosystème français sur la philanthropie.
Oui, je ne l'ai pas précisé en introduction, mais toi, tu es ambassadeur de Epic Foundation depuis quelques années maintenant ?
Oui, ça fait quelques années. En fait, pour moi, tu as ces différents outils pour arriver au même objectif. C'est difficile de sélectionner et d'accompagner des projets qui sont à l'étranger, parce que je trouve que tu as besoin d'être assez proche des entrepreneurs sociaux. Et donc, si je veux avoir un impact au Kenya, le mieux, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui connaît le secteur et qui peut m'aider à choisir.
Oui. En l'occurrence, Epic Foundation, qui a été créé par Alexandre Mars, notre Bill Gates français. Est-ce que vous en avez marre quand on entend parler de philanthropie comme ça, à travers la figure de Bill Gates, qu'on veut vraiment réincarner dans plein d'autres philanthropes, quoi.
C'est une force d'avoir cette image de Bill Gates, parce que sans doute il donne envie et il donne un cadre à une forme de philanthropie qui est très généreuse et à l'américaine, quoi, comme tu disais, Cédric. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que ça ne donne pas la juste représentation de ce que c'est que la philanthropie. En fait, il y a des tonnes et des tonnes de formes de philanthropie. Donc c'est peut-être le mot, en fait, philanthropie, qui est pas bien défini ou pas bien encadré. Donner déjà un peu d'argent, tous les gens qui donnent en France, et je crois qu'en France on est très donateurs dans la vie associative, c'est déjà une forme de philanthropie. Donc peut-être qu'avec le mot philanthropie, il y a un lien plus direct avec les assos ou les projets qu'on soutient. C'est peut-être ça qui fait que le mentorat est une partie importante de la philanthropie. Ça veut peut-être dire un lien, mais ça ne veut pas dire des montants stratosphériques ou que ce serait inaccessible ou que ce serait accessible à des gens qui auraient extrêmement bien réussi dans la vie et qui auraient touché beaucoup d'argent. Ça peut aussi être accessible à des gens salariés, à des gens qui gagnent bien leur vie ou qui gagnent suffisamment leur vie pour pouvoir redonner, si j'allais au bout de l'exercice, je dirais 5 000, 10 000, 20 000 euros par an.
Je ne peux pas vous contredire là-dessus, parce que c'est vraiment, moi, tout le cœur de mon travail de démontrer que cette philanthropie, elle a une définition beaucoup plus large que ce qu'on veut bien admettre. Après, on peut jouer sur les mots, hein, philanthropie, altruisme, solidarité, générosité, ça on l'entend beaucoup en ce moment. Au fond, je pense qu'on parle un peu de la même chose. Tu soulignes le lien à l'autre dans l'accompagnement, ça c'est fondamental. On y reviendra un petit peu plus tard. Et qu'est-ce qui fait la singularité de la méthode Entreprendre et Plus par rapport aux autres acteurs de l'écosystème ?
Alors, je ne sais pas si c'est une singularité, mais nous, notre façon de voir les choses, c'est déjà qu'on essaie de trouver des solutions qui sont systémiques, donc essayer de résoudre l'origine du problème plutôt que les symptômes. Étant donné que c'est beaucoup de gens qui ont été dans l'entrepreneuriat, on a quand même un prisme sur la scalabilité du modèle, la capacité à avoir un impact social qui n'est pas corrélé nécessairement au besoin de lever de plus en plus d'argent, qui est toujours une des grosses limites du secteur. Je pense que notre spécificité aussi, c'est qu'on est capable de prendre des projets très très tôt. alors que beaucoup, en fait, de structures veulent avoir déjà une mesure d'impact, une preuve, et donc, alors qu'avec nous, fondamentalement, ce qu'on cherche, c'est une équipe qu'on peut aider, ou qui a l'écoute, et où on sent qu'on peut, en fait, avoir une valeur ajoutée pour les aider à démultiplier et à vraiment scaler leur impact social. Et ça, je pense que c'est assez unique dans l'écosystème. Et d'ailleurs, même sur des projets qu'on n'accompagne pas, souvent, comme on a une super équipe à plein temps, même dans la recherche de fonds, en fait, ils trouvent qu'ils ont de la valeur. Et donc ça, je pense que c'est super important pour nous de se dire, c'est pas une perte de temps, c'est pas juste pour récupérer un chèque, et que, en fait, c'est un accompagnement dès le début du projet.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Entreprendre et Plus, c'est pas seulement un accompagnement financier. En l'occurrence, je crois que c'est 100 000 euros sur 3 ans. Mais c'est aussi beaucoup d'extra-financiers, hein, donc à travers le mentorat. J'ai cru comprendre que vous étiez aussi très sélectif dans les projets. Alors, je ne sais pas si vous êtes très sélectif ou c'est plus un accompagnement, on va dire, profond. Parce que vous ne prenez pas plus de 3 projets par an. Parfois, ça peut même être un seul projet dans l'année. Donc, c'est vraiment, vous prenez les entrepreneurs sociaux par la main et vraiment, vous les accompagnez sur la durée. Je pense notamment à des start-up associatives ou des associations assez connues aujourd'hui qui ont été accompagnées par Entreprendre et Plus, comme Ticket for Change, Solinum, Singa, Fratrie. Et tout ça a été un peu théorisé sous le concept de philanthropie active. Est-ce que c'est Entreprendre et Plus qui a un petit peu apposé comme ça cette étiquette de philanthropie active pour désigner un petit peu cette forme d'engagement ?
Je ne pense pas qu'on ait nécessairement créé ça. Enfin, moi, après, c'est peut-être mon côté anglo-saxon, mais je pense que c'est vraiment le concept de la venture philanthropie.
J'allais venir, ouais.
Et qui, pour moi, était juste pas aussi courante dans l'écosystème français. C'est pour ça que moi, quand je suis rentré, en fait, c'est un peu comme ça que j'ai fait le tour. Et c'est ce que j'ai trouvé le plus proche d'un modèle de venture philanthropie où, en fait, tu appliques un peu les mêmes principes que tu auras dans le monde des startups, dans le monde du venture, à des thématiques à impact social avec des entrepreneurs sociaux. Donc, je pense qu'on n'a pas nécessairement inventé quelque chose. Je pense que c'est, en gros, on a pris ces principes et on les a adaptés à l'écosystème français.
Arnaud de Ménibus, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est à l'origine d'Entreprendre et Plus, à la base, c'était uniquement un fonds de dotation. Ensuite, je crois qu'en 2016, il a commencé à l'ouvrir à d'autres philanthropes. En fait, il a plus ou moins importé ce concept de venture philanthropie en France, si j'ai bien compris. Alors après, tout ça, c'est une question de terminologie, de champ lexical. Voilà, on l'appelle philanthropie active, mais ça démontre plus le mode d'action qui s'apparente beaucoup, effectivement, à la venture philanthropie, à travers cette approche à long terme, notamment. Et qui sont les philanthropes qui composent votre alliance ? C'est quoi le profil des gens, de vos collègues philanthropes ?
Et écoute, on a la richesse, je pense, de notre alliance, c'est justement que c'est assez diverse. Il y a un équilibre homme-femme, déjà. On ne recherche pas nécessairement ça, mais de fait, je pense qu'on y est. Peut-être qu'on le chercherait quand même si on ne l'avait pas. On a des profils d'âge différents. Je pense que ça va de 40 à 75 ans. On a des gens qui sont plutôt des fonds de dotation familiaux, on a des entrepreneurs chevronnés, on a des gens qui sont salariés, on a des gens qui sont à la retraite. Donc on a vraiment un profil de gens différents. Ce qui nous unit, c'est la vision qu'on a de la philanthropie. Et j'ajouterais à ça, je pense qu'on s'entend bien, dans le sens où on aime bien être ensemble. Il y a une idée de collectif derrière aussi, d'avoir envie de bosser, parce que je pense quand on est ensemble, on le fait sérieusement, vraiment. Et donc, c'est comme si on bossait, quoi. C'est ça, la force aussi. Et du coup, l'équilibre de tous ces gens divers fait cette spécificité, sans doute, qui est très riche.
Donc, c'est très intergénérationnel comme façon de travailler ensemble, finalement.
Ouais, on a une personne qui est psychologue, on a et sculptrice, on a une coach, on a Cédric, la femme d'Arnaud de Ménibus, aussi bien que des nouvelles personnes qui arrivent, qui ont des track records importants ou qui sont à la retraite avec des très belles expériences. C'est très varié.
Pas de guerre d'ego parmi cette alliance, non?
Non, fondamentalement, je pense que le point de départ, c'est qu'on a une vision commune. Et ça, c'est la même chose que dans une start-up ou dans une association. C'est-à-dire qu'on a une vision qui est partagée. Et je pense qu'on est tous convaincus que la diversité nous rend meilleurs. Et donc, on essaie au maximum d'évoluer. Et je pense qu'on va continuer pour avoir des profils de plus en plus différents et adapter aussi l'outil en fonction de ça. Donc, non, il n'y a pas vraiment de guerre d'égo. Aussi parce que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à gagner. mais bon, ça, peut-être que ça va changer, on ne sait jamais. Mais je pense que c'est aussi dans la gouvernance où il y a eu des changements et où il y a des choses qu'on a mis en place pour justement qu'il n'y ait plus de... On ne puisse pas avoir de guerre d'égo. Et c'est là où la transition, en fait, comme tu faisais allusion au début, où c'était un fonds de notation d'Arnaud, on est passé à l'étape au-dessus maintenant. Où en fait, effectivement, ça reste son projet pour moi. C'est lui qui l'a, c'est le fondateur. Il n'y a pas de débat, c'est génial, etc. Mais je pense que là, c'est maintenant, c'est un projet collectif. Et c'est pour ça que grâce à cette collectif, à ce collectif, on va pouvoir avoir de nouveaux profils. Et je pense qu'on va continuer à être à l'égard de gens qui ont les mêmes valeurs que nous et qui font ça parce que c'est fun et qu'on a de l'impact et qu'on aime passer du temps ensemble.
Ça me fait penser beaucoup à la philosophie du Giving Circle, en fait. Hein, donc au cercle de donateurs qui se regroupent autour d'une vision commune, de projets communs, qui mettent aussi la main à la poche collectivement pour appuyer ces différents projets. Donc c'est un peu à la croisée de l'aventure philanthropie et du Giving Circle, en fait, si je devais résumer un petit peu la philosophie d'Entreprendre Plus.
Juste pour ajouter un truc, il y a vraiment un truc important, je pense, dans ce que disait Cédric, c'est quand tu arrives dans un cercle de gens qui est déjà avec une ADN assez forte, je pense que c'est notre cas, ça empêche les nouveaux arrivants, ils vont toujours se conforter au groupe. Et l'écosystème, le groupe, il est assez fort, justement, pour avoir une ADN ou une culture qui n'a pas d'ego. Donc ceux qui arrivent, nécessairement, ils vont se conforter à ça, ils vont s'adapter à ça.
C'est intéressant le point que tu soulèves, effectivement. Je voulais qu'on parle un petit peu d'un travail que vous avez effectué en 2021 pour faire un petit peu un bilan de ce modèle-là, pour mesurer l'impact à la fois sur les entrepreneurs sociaux soutenus, mais aussi sur les philanthropes. Vous avez fait un peu le tour des parties prenantes. Et ce qui est ressorti, c'est que Entreprendre et Plus a identifié une typologie de 4 profils de philanthropes dans ses rangs. Alors, il y a eu le donateur humaniste, l'entrepreneur d'avenir, le philanthrope gestionnaire et l'investisseur à impact. Donc, grosso modo, si je résume un peu l'idée, le donateur humaniste, lui, il aime aider de belles choses à prendre vie. L'entrepreneur d'avenir, il accompagne les projets sociaux dans leur structuration stratégique, le déploiement opérationnel. Le philanthrope gestionnaire, lui, garantit la distribution de fonds à des projets sérieux. Et l'investisseur à impact, lui, c'est un accélérateur de développement. Dans quelle catégorie vous vous situez tous les deux ?
On peut répondre à plusieurs. Peut-être le deuxième, moi.
Ok, donc l'entrepreneur d'avenir.
Peut-être le moment où tu bâtis, où tu traverses toutes les galères. Parce que ce n'est pas facile d'être entrepreneur social. C'est un point important, ça. C'est vraiment pas facile.
Et toi, Cédric ?
Je pense que c'est toujours dur de catégoriser.
Ouais.
Je pense qu'en fait, en fonction aussi de chaque projet, tu as des moments où tu es plus en mode impact ou en mode coup de cœur. Et donc, en fait, tu t'adaptes un peu. Clairement, vu mon passé, j'ai plus tendance à te dire on va être dans l'impact. Et après, c'est ça qui est génial, c'est que justement, comme on a plein de parcours différents, plein de projets différents, en fait, des fois, tu te dis que en fait, c'est pas ces outils qu'il faut utiliser. Il faut aller plus dans le cœur que dans le rationnel, scalabilité du modèle, etc., etc. Et c'est ça qui est splendide dans l'alliance, c'est que plein de points de vue différents, plein de projets différents, et donc tu apprends tous les jours.
Oui, et en même temps, on ne s'enferme pas dans une catégorie. C'est vrai que la tête et le cœur sont reliés. Hein, donc parfois, on fait marcher plutôt l'un, plutôt l'autre. Mais l'un n'exclut pas l'autre, en fait. C'est un petit peu ça que tu nous dis. Au cours de cet exercice, vous avez aussi cherché à mesurer les effets de cette pratique d'une philanthropie active sur les philanthropes eux-mêmes. En ce qui vous concerne, quels sont les principaux effets que cet engagement a eu sur vous ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Alors, moi, ce que j'en ai retiré, déjà, c'est beaucoup de sens. Je pense que, de toute façon, c'est un peu la thématique pour tout le monde du moment. C'est trouver du sens dans le temps qu'on y passe, dans ce qu'on fait. Beaucoup d'espoir, parce que je rencontre que des gens exceptionnels. Tous les entrepreneurs sociaux que j'ai rencontrés sont absolument hors normes. C'est aussi intellectuellement intéressant et challengeant, parce que c'est des écosystèmes que moi, je ne connaissais pas du tout. Et où même si tu as des parallèles, il y a quand même des grosses différences. Et pour moi, la principale chose qu'on en retire, et que c'est pour ça que je recommande à tout le monde d'aller passer plus de temps dans le secteur associatif ou avec nous, avec d'autres acteurs, c'est des relations humaines. C'est-à-dire que, moi, avec tous les accompagnements que j'ai faits, je suis passé d'un mentor ou du mentorat à une amitié avec des gens avec qui on va aller prendre un verre, on va aller discuter d'autre chose, et tout en ayant en fil de fond un impact social qui est super positif. Et on se dit qu'on va vraiment changer la vie des gens.
Je lisais une interview de toi, la seule, que tu as bien voulu accorder aux Échos, je crois, tu parlais de karma positif. J'aimais bien, j'ai plus ta formulation en tête, mais tu disais que c'était que ça t'apportait beaucoup de karma positif.
Alors moi, c'est un peu mon fil conducteur. C'est dans le doute, reste sur tes valeurs, reste sur de l'éthique, et après on verra comment ça se passe. Et je pense qu'à la fin de la journée, les retours reviennent. Donc il y a plein de choses que je fais qui sont en bénévolat, ou même sur des start-up tech, où j'accompagne gratuitement, où je suis même pas investisseur, et où tu te dis, en fait, c'est faut pas être dans le calcul. Enfin, je trouve qu'il faut pas être dans le calcul. Si tu passes du temps avec des gens bien pour faire des choses qui vont dans le bon sens, bah, idéalement, même si à la fin, c'est un succès, c'est un échec, c'est le parcours. Et c'est comme dans l'entrepreneuriat, pour beaucoup de startups, je leur dis, vous focalisez pas sur le résultat, mais sur le chemin. C'est-à-dire que si en chemin, vous avez des valeurs qui sont communes, vous allez dans la bonne direction, bah, c'est génial, et vous n'aurez jamais de regrets. Si par contre, ce que vous voulez faire, c'est créer une licorne, bah, y a quand même 99 chances sur 100 que ce soit un échec et donc que vous le viviez mal. Donc partez d'une passion, partez de quelque chose qui vous anime, et que le karma positif soit là, quoi.
Ouais, toi, tu as les deux casquettes, tu es à la fois business angel et philanthrope. En quoi c'est différent d'accompagner un start-upper versus un entrepreneur social?
Moi, déjà, quand on parle d'accompagnement, souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on apporte des compétences. Mm-hmm. Alors que pour moi, en fait, tu n'apportes pas des compétences. Tu apportes tes échecs. C'est là où tu as le plus de valeur, en fait. En disant ça, j'ai déjà fait, c'était une erreur. Ou alors quelques idées sur des réussites, mais surtout, c'est poser des questions, faire le miroir. Si je fais le parallèle, en fait, il y a plein de points communs. Les deux ont une vision, une stratégie. Tu leur dis qu'il faut être assez focus sur sa stratégie. C'est principalement de la RH et ensuite du financement. Donc, tu as les mêmes blocs de chaque côté. Là où il y a une grosse différence, et c'est ça s'il y avait un point négatif et un point qui m'attriste, c'est celui-là. C'est quand tu as une start-up, ils ont un produit qui cartonne, ils ont des clients, tout marche bien, tu as de l'hypercroissance, tout le monde est content. Dans le monde associatif, tu as une solution, tu as un truc qui marche bien, c'est la cata. Pourquoi ? Parce que souvent, les financements ne sont pas là. Alors je ne vais pas être désagréable, mais moi j'ai investi dans les contrats impact. Aujourd'hui l'État s'en retire plus ou moins, alors que c'était quand même un des modèles pour essayer de changer et trouver des modèles d'hypercroissance sur des problèmes sociaux. Donc on n'a pas ces modèles-là. Et quand tu veux hybrider ton modèle où tu te dis bah, « Ok, je ne peux pas financer tout en philanthropie, j'ai un modèle économique », comme tu es une asso, on te dit « Non mais il ne faut pas en faire trop d'argent quand même ». Et donc en fait, tu te dis bon, « Ok, c'est cool votre truc, mais je règle un problème ». Mais bon, il y a quand même fondamentalement, on revient sur les bases, c'est que tu as toujours une composante RH, donc il faudra quand même des fonds, et en fait, c'est juste pas possible. Et donc c'est ça pour moi la grosse différence et le gros challenge en mentorat, c'est que même s'ils ont une solution parfaite, en fait, cette hypercroissance, elle est inatteignable souvent, parce qu'il n'y a pas de fonds qui suit derrière.
Elle est condamnée d'avance, quoi.
Alors moi, je suis optimiste.
Ouais.
Je reste toujours optimiste. C'est juste, on va aller un peu plus doucement. Donc on va accélérer un peu moins vite. Et tu vois, j'accompagne, par exemple, sur un exemple, tu vois, Je bouge pour mon moral, qui s'occupe, qui utilise le sport et la marche nordique pour la dépression. Ils ont des financements de l'ARS dans le Grand Est, mais voilà, ils ont capé les financements. Et ensuite, tu veux aller dans une autre région, et c'est pas pareil. Donc à chaque fois, en fait, tu te bats pour retrouver du budget fratrie, qui est un super projet. Pareil, en fait, il y a plein de choses où tu dis, mais en fait, tout marcherait, il faudrait juste un tout petit truc. Mais bah souvent, les décideurs, c'est un peu compliqué. Mais on est optimiste, on va y arriver, et l'impact sera là.
Et toi, Léonore, si tu devais résumer un petit peu tout ce que cet engagement chez Entreprendre et Plus t'a apporté, tu peux aussi t'appuyer sur les projets que t'as accompagnés dans le passé ou actuellement, mais c'est quoi les leviers identifiés?
J'ai découvert un univers que je connaissais pas. Je connaissais bien l'entrepreneuriat, l'entreprise traditionnelle et donc l'économie sociale et solidaire. C'est tout un pan de l'économie qu'on connaît pas bien, en fait, qui est pas bien monté encore, je trouve, au niveau du grand public. Ticket for Change, que tu cites, est une marque connue pour ceux qui connaissent. Mais l'envers du décor, comme disait Cédric, il est hyper difficile. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup d'admiration, vraiment. Pour ces gens qui font vraiment bouger les lignes, souvent, à mon avis, on n'a pas d'études, mais j'imagine que le taux de burn-out dans l'économie sociale et solidaire est beaucoup plus élevé parce que tu mets trois fois plus d'énergie. Alors après, c'est vrai que l'impact est au cœur, donc ça donne sans doute beaucoup plus de sens, mais la partie RH est hyper difficile. Tu ne peux pas bien payer les gens, ils ne sont jamais payés comme dans la vie traditionnelle. Alors nous, on accompagne sur 3 ans et ça répond justement à ce problème de levée d'argent. Parce que tous les ans, tu dois recommencer. Donc c'est assez usant. Je reste optimiste aussi, je précise, on va y arriver. Moi, j'ai à côté de ça une vie professionnelle dans la transition écologique. Donc il y a beaucoup de parallèles entre les deux et sans doute ça a été une partie de mon engagement aujourd'hui. Ça se ressemble quand même dans les difficultés et le vent contraire, même si on reste très positif. Et c'est vraiment tout un univers. Et ce qui est marrant, c'est le décalage entre l'envie qu'on sent de beaucoup de générations, ou le paradoxe entre une génération nouvelle qui arrive et qui est native impact, en partie en tout cas plus qu'avant, qui voudrait donc aller vers des modèles plus à impact, plus sobres et qui ont plus de sens. Pas toute la nouvelle génération, mais une partie. Et la difficulté que c'est encore aujourd'hui de développer des projets là-dedans.
Justement, ça me permet de rebondir sur la deuxième partie de ce bilan d'impact que vous avez effectué en 2021. Parce que du côté des entrepreneurs sociaux, il y a beaucoup d'effets positifs constatés, comme par exemple des moyens financiers sur de l'infinançable ou encore le luxe de penser en grand. Et c'est précisément ce qui manque au secteur associatif. Donc si on prend les frais de fonctionnement, par exemple, des associations, est-ce que vous pensez que les philanthropes devraient être plus enclins à les financer de manière inconditionnelle? Parce que ça, c'est un vrai enjeu. Il y a d'ailleurs eu une enquête de terrain qui a été récemment menée par le Philanthrolab en collaboration avec Sciences Po, je crois, pour analyser les modes de financement des frais de fonctionnement des associations et les pistes de solutions envisageables. Est-ce que vous pensez que les philanthropes devraient être un peu plus ouverts à ça ou
Alors, le tout, financer tout, non, je ne crois pas. Parce que comme dans la vie professionnelle, comme dans l'univers de la start-up, être entrepreneur social, c'est avant tout être entrepreneur. Et donc l'exigence, quand tu es start-upper, tu démarres, tu as souvent des cadres qui sont plus facilement accessibles d'incubation, d'incubateur. Tu as quand même un gros écosystème en France qui donne des limites et qui font qu'assez vite, tu te rends compte des limites de ton BP, de ton projet, qui est crème, si je peux me permettre ce mot-là, ou qui t'aide à améliorer ton business plan et ta vision dès le début. Et c'est important, parce que tout le monde n'est pas fait pour ça, tous les projets ne sont pas viables et très peu vont arriver à destination. C'est pareil pour l'entrepreneuriat social. Je pense qu'il faut rester, et c'est ça que j'aime moi dans notre alliance, c'est qu'on reste très exigeant et que c'est aussi utile, comme disait Cédric, pour ceux qui juste ont un premier contact avec nous, à qui on va dire, bah écoute, ton projet il est super, mais là en l'état, on va pas le prendre, on va pas le financer parce que telle raison. Et c'est tout aussi utile. Par rapport à ta question, oui, il y a besoin de beaucoup plus de financement et il y a un vrai enjeu de passage à l'échelle, clairement. Il y a pas, c'est comme dans les fonds de dotation à impact ou les fonds d'investissement à impact. Il y a un vrai problème de passage à l'échelle. En tout cas en France, je pense que c'est moins le cas aux US, mais il y a un vrai problème de passage à l'échelle. On est toujours dans des modèles qui sont de taille PME, TPE.
Bon, après moi, si tu veux, je te donne... alors, peut-être que je ne répondrai pas à la question, mais bon, ça ne sera pas une nouveauté. Mais il y a deux questions pour moi. Il y a une partie sur la vision et se projeter. Et en fait, ça pour moi, maintenant que j'ai passé pas mal de temps dans cet écosystème, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Si tu n'as pas les besoins fondamentaux qui sont gérés, c'est quand même difficile de te projeter et de te dire « je vais aller faire 5 ans d'études ». Dans le monde associatif, souvent les financements, tu as 6 mois de financement devant toi, c'est déjà pas mal. Dans une start-up, moi je leur dis « si vous n'avez pas 18 mois, on n'en parle même pas ». Donc en fait, la projection, c'est ça déjà. C'est un modèle où naturellement, tu es toujours enlevé de fonds, comme on disait. Donc là, c'est là où nous, on joue un rôle en disant « c'est pas parce que tu es enlevé de fonds, enfin, on va supposer que ça va bien se passer et on va t'aider à ce que ça se passe bien, mais on va te forcer à prendre du recul ». Mais c'est vrai que c'est pas nécessairement facile de se dire bah, « je vais me projeter à 5 ans quand tu sais même pas si dans 6 mois, tu auras encore de quoi payer tes employés », quand t'en as dans le monde associatif. Donc déjà, ça c'est le premier point pour la partie vision. Et après, sur le financer l'infinançable, moi j'ai toujours trouvé ça drôle parce que tu parles à n'importe quel donateur. Et il va te dire, moi j'y crois, c'est les gens. Donc il faut avoir les meilleures personnes. Ben, je dis super, donc voilà. Et donc les meilleures personnes, est-ce qu'il faut les payer? Ben, bien sûr. Et tu dis, ben, donc ton chèque là, on va l'utiliser pour payer des gens, pour lever de l'argent, pour aller plus loin, et peut-être même des leveurs de fonds. Et le mec il dit, ben non, il faut que ça ait de l'impact. Je dis, mais attends, il y a une seconde, tu me disais, c'est pour les meilleures personnes, mais d'un autre côté, toi tu veux flécher ton chèque. Et en même temps, alors moi, comme je suis dans les écosystèmes un peu investisseur start-up, c'est les mêmes gens qui pourront te faire un chèque de 25 ou 50 000 euros sur une start-up, sur un BP, et où derrière, il n'y aura plus la moindre relation pendant 18 mois, où on ne valide pas où étaient les 5 000 euros. Mais dans le monde de l'associatif, parce que tu as cette volonté enfin, de perfection, et de se dire qu'il faut absolument que ce soit utilisé de la meilleure manière possible, limite, en fait, t'empêche la scalabilité du modèle, parce que toi, en tant qu'externe, tu prends une décision de où devrait être utilisé l'argent. Ce qui, fondamentalement, dans n'importe quelle structure, est une mauvaise idée. Le jour où c'est tes investisseurs ou tes donateurs qui te disent quoi faire, enfin, faut juste soit virer la personne qui gère la boîte, soit changer de donateur. Et c'est là où, pour moi, Entreprendre et Plus, on joue un rôle différent qui est on ne décide pas où va l'argent. Ce n'est pas notre sujet. Pareil que Epic, d'ailleurs, où c'est non fléché. Et pour moi, c'est le point de départ de la philanthropie. Il faut absolument qu'on arrête de dire aux gens quoi faire.
C'est super important ce que tu soulèves, parce que c'est une contradiction qu'on rencontre beaucoup chez, en fait, tout type de donateurs, y compris monsieur et madame tout le monde, qui sont partants pour soutenir la cause, mais pas pour payer des salaires, en tout cas pas pour payer des frais de structure. Mais c'est tous les programmes, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens derrière pour les faire rouler, donc c'est un peu, on se mord un peu la queue, quoi. Puis il y a aussi de plus en plus, en tout cas en France, cette contractualisation des financements à travers les appels à projets où ça resserre encore un peu plus les taux, quoi.
Mais ça fonctionne, ce que dit Cédric, parce qu'avant, on a fait tout un travail de, le mot n'est pas juste, mais de filtre. Orlane et Camille, elles passent beaucoup de temps à chercher des projets, à échanger avec eux, à vérifier la viabilité. Et dès lors qu'on dit go, effectivement, la confiance, elle est totale. Et la confiance, c'est ce que vient de décrire Cédric, c'est non fléché et c'est sur 3 ans. On est vraiment à leur disposition.
Alors, je voulais vous faire réagir à une notion qui a été développée par Elisabeth D'Assouza, qui est la DGA de la Fondation Entreprendre, qui abrite d'ailleurs le fonds de dotation de Entreprendre et Plus, et qui, elle, parle de give back entrepreneurial. Donc, cette idée selon laquelle les personnes ayant réussi par l'entrepreneuriat sont soucieuses de partager avec la société ce qu'elles ont reçu. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce courant ou avez-vous l'impression de recevoir plus que vous ne donnez ?
Non, faut aller plus loin. C'est marrant parce que quand je réfléchis à ta question, je me dis en fait, d'un côté, je donne du temps et ce que je récupère, c'est du plaisir, du savoir, des relations humaines. Franchement, c'est pas facile de faire la comparaison, de savoir ce qui est plus ou moins et de faire le delta. Moi, je pense que. Je suis parti aux US en 98, je suis rentré en 2015. La France est un pays où c'est quand même. C'est pas tous les jours rose dans la vie de tous les jours. Et moi, c'est ce que j'adore dans cet écosystème, c'est qu'à travers Entreprendre Plus et les entrepreneurs sociaux, c'est une bouffée d'air frais, et pareil avec les start-upers. C'est des gens qui se disent on va y arriver, on va y aller. Et c'est juste, tu vois, si j'étais dans l'écosystème, entre guillemets, français classique, c'est juste l'impossible tous les jours. Et donc, c'est sympa de voir que l'impossible est possible, parce que tous les jours, ils font des trucs exceptionnels. Donc moi, c'est clair que j'en retire énormément. Plus ou moins, je ne sais pas.
Moi, je dirais que je me suis jamais posé cette question. Je ne saurais même pas dire si j'ai vraiment réussi. Enfin, pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Mais après, c'est marrant parce que moi, je fais partie du comité de pilotage et du conseil d'administration. Mais je me dis souvent qu'il faut qu'on arrive à comprendre les leviers qui font que chaque philanthrope est là pour lui rendre, pour répondre à pourquoi il est là. Certains vont être là parce qu'ils ont envie d'être avec... Pour le plaisir d'être ensemble, on va dire, le friendship, l'amitié, enfin voilà. D'autres vont être là par rapport à leurs enfants. Je ne vais pas dire son nom de famille, je ne sais pas s'il voudra, mais Stéphane le disait. D'autres sont là parce qu'ils ont connu Arnaud de Ménibus et que c'était quelqu'un de... Moi, je ne l'ai pas bien connu, toi, je ne sais pas.
Oui, un petit peu. C'est quelqu'un qui t'engage, quoi.
Exactement, mais ça tient quand même vraiment sur la durée. Après qu'il l'ait créé, ça s'amplifie même, donc c'est vraiment... Il a vraiment une super vision, je pense. Tout le monde est là pour des raisons différentes. C'est toujours comme ça, je pense, dans le bénévolat. Mais donc, on a aussi à cœur de trouver, de rendre à chacun, vu qu'on c'est bénévole, t'es jamais bénévole pour rien. C'est sûr. Personne n'est bénévole pour rien.
Et j'ai envie de vous amener un petit peu plus loin. Est-ce que la philanthropie est, selon vous, une forme de développement personnel ?
Je dirais pas ça, moi. C'est un développement additionnel aux autres, tu vois, mais fait partie... Bon, j'ai beaucoup de cercles différents, sur différents sujets, aussi loin que intime que professionnel, ça en fait partie.
Ouais, je suis un peu pareil. Sur le développement personnel, je ne suis pas tellement proactif là-dessus. Moi, je pense qu'en fait, c'est un peu dans tout ce que je fais, il faut que tu te mettes dans des situations où tu es un peu inconfortable et où en fait, tu ne connais pas grand-chose, mais comme tu es curieux et que tu es entouré de gens brillants qui vont répondre à tes questions, c'est l'opportunité peut-être d'avoir un développement personnel. Mais ce n'est pas l'objectif. Moi, c'est juste... En fait, si tu termines pas ta journée en te disant, tiens, là, il y a un truc que j'ai... Bon, c'était un peu hard, mais c'est vraiment le day-to-day, je trouve que c'est un peu dommage. Donc moi, c'est un peu ça que j'en retire, et où je me dis, en philanthropie, en fait, bah, et c'est pour ça que pour moi, il y a une limitation à juste faire un transfert d'argent, parce que c'est assez difficile d'en retirer quelque chose. Alors qu'avec Entreprendre et Plus, bah, que ce soit quand on mentore un projet ou quand on en regarde à nouveau, je découvre des trucs et je me dis, ah, ça, j'aurais pas pensé. Et je trouve que c'est ça qui est passionnant.
Je vous pose la question parce que je me la pose moi-même. Aujourd'hui, on est effectivement à l'ère du développement personnel, du Me, Myself and I. On est beaucoup tourné vers nous-mêmes. Et de plus en plus, on redécouvre en tout cas cette idée que ben, on est mieux assis sur un tabouret à trois pattes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le lien à nous-mêmes, qui est important évidemment, le lien à la nature, on va dire, au vivant, et le lien aux autres. Et pour moi, la philanthropie, c'est effectivement une façon de cultiver son lien aux autres, et ça nous nourrit, hein, parce qu'indirectement, c'est un petit peu ça ce que vous nous dites à la fin de la journée. Vous avez dénoué une situation, vous avez appris quelque chose, voilà. Donc c'est une vraie question que je me pose, et j'avais envie de vous la poser pour connaître un petit peu votre avis là-dessus. Après, bon, c'est sûr que c'est pas le genre de question qu'on se pose nécessairement seulement le matin, mais je sais pas, moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je me dis, bon, après tout, on a suffisamment entendu parler des accords Toltec et des cartes Toll de ce monde. Oui. Peut-être que c'est, en tout cas, une façon de se développer autrement, quoi.
C'est un énorme avantage, hein. Vous êtes à n'importe quelle soirée, tu dis, bah, moi, tu vois, par exemple, j'accompagne une fratrie, j'accompagne une asso qui fait du co-living pour handicapés. Oh ben là, j'ai une demi-heure de conversation passionnante.
Ouais.
C'est moins facile quand je leur parle de mon dernier investissement en GenAI qui va... je trouve que c'est l'avantage aussi de l'associatif, c'est que c'est tellement passionnant, tout le monde peut comprendre. Et en fait, tu peux embarquer énormément de gens avec des histoires de vie qui, en fait, peut-être qu'ils ont dans leur famille ou qu'ils ont expérimenté eux-mêmes. Et donc, c'est même si ce n'est de faire un chèque, comme je disais, même si tu n'as peut-être pas autant de valeur potentiellement pour toi, je pense que c'est important que tout le monde le fasse et qu'ils en parlent et qu'ils en soient fiers et qu'ils ont apporté une pierre à un édifice. Et donc, pour moi, il faut que tout le monde trouve une cause ou une asso et qu'ils y aillent, quoi.
Ouais, ce que tu dis, c'est que non seulement il faut s'impliquer à son échelle, évidemment, mais il faut aussi en parler.
Bah c'est fondamental parce que si personne n'en parle, c'est un peu comme la santé mentale. C'est-à-dire que si c'est tabou, en fait, tu as plein de gens qui souffrent et ils se disent « je suis le seul à en souffrir ». Ben là, c'est l'effet positif inverse. C'est-à-dire que tu te dis, ben, y a un truc, quand tu le fais, c'est génial, mais si j'en parle à personne, personne ne sait que ça existe. Donc, on a parlé du sport, tu vois, il y a une politique où on a dit qu'il faut faire 30 minutes de sport là, avec les JO. Ben, peut-être qu'il faut juste dire à tout le monde, voilà, on vous donne les 10 euros ou les 20 euros, faites-le. Moi, c'est ce que je fais avec mes enfants, où tu vois, ils ont une somme qu'ils doivent donner tous les ans. Donc, je leur dis, voilà, vous trouvez une asso, vous la donnez. Mais le fait d'aller chercher des assos, de regarder ce qu'ils font, en fait, ça te met la main à la patte et de découvrir un peu ben, ce monde-là et te dire « waouh, c'est génial ». Et c'est juste, c'est pas facile à faire si t'es dans ton, métro, boulot, dodo. Et ça prend pas énormément de temps.
Là, c'est l'occasion de rendre hommage aussi au projet que vous accompagnez. Est-ce que vous avez envie de mettre un petit coup de projecteur ce matin sur deux, trois projets qui vous ont particulièrement botté ces dernières années et que vous avez envie de partager à nos auditeurs ?
Bah, on peut citer les gros projets quand même qui ont réussi avec les outils de la start-up traditionnelle, tu les as cités, mais Solinium, franchement, il faut voir ce que fait Victoria, elle est assez bluffante. Mm-hmm. Et il faut voir aussi l'humilité, vraiment, c'est-à-dire c'est au service de l'intérêt général. Et Victoria dit, j'adore, le jour où on disparaîtra, en fait, l'objectif pour nous, c'est pas de grossir, c'est de disparaître. En fait, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et si je fais lien avec ce que tu disais tout à l'heure de développement personnel, c'est vrai que quand tu rencontres ces gens-là, quand les gens aujourd'hui dans la société que tu décris, Me, Myself and I, il y a aussi beaucoup besoin, je pense, d'aller vers l'autre, quoi. Quand tu vas pas bien, va aider quelqu'un, tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux assez vite. Tu ne vas pas te prendre la tête trop longtemps. Donc sans doute qu'une forme de philanthropie ou d'engagement, en tout cas, ça aide à résoudre un égocentrisme parfois qui n'est pas très utile. Ticket for Change, c'est vrai que c'est une marque phare, j'imagine, dans l'écosystème de l'ESS. C'est intéressant aussi de voir Mathieu, donc le fondateur, Mathieu Dardaillon, il est aujourd'hui dans une nouvelle forme de vie qui est plus sur le partage de son expérience et du sens et des échecs et des difficultés qu'il a rencontrées. Il s'est désengagé un peu de Ticket for Change il y a peut-être un an ou deux. Et donc, il partage aujourd'hui pourquoi il s'est désengagé, comment il le vit et ce qu'il fait. Et donc, ça montre aussi, c'est intéressant d'aller voir justement l'envers du décor et l'échec donc, qu'il partage. L'échec, ce n'est pas du tout au sens qu'il a raté, c'est au sens d'un moment de difficulté. Alors moi, j'ai accompagné longtemps Tadam, ce que je veux faire plus tard, qui a été un super projet autour de l'école, qui se développe bien, qui vise avec une forme de coaching adaptée au collège et au lycée pour aider, notamment les REP et les EP, les jeunes, à retrouver un équilibre, un lien dans l'école et dans la classe entre la relation entre eux et avec les profs, ce qui n'est vraiment pas inutile. Et aujourd'hui, j'accompagne Trouve ta voix, qui est un projet porté par Thomas Conté, qui est absolument génial, et qui, avec Marjorie, on est deux, en général, on est toujours deux à mentorer, qui travaille beaucoup sur la prise de parole à l'école et la confiance en soi par la prise de parole.
Alors moi, ouais, c'est dur parce qu'ils sont tous exceptionnels.
Ouais.
Donc moi je vais essayer de, puisque ceux qui écoutent, c'est le moment de passer à l'action. Donc moi je leur propose d'aller sur le site d'Entreprendre Plus, de regarder tous les projets, choisir celui qui leur plaise et contactez-les, aidez-les financièrement avec du compétence. Enfin, je pense qu'il y a besoin de beaucoup de choses. Moi par exemple, j'accompagne une fratrie qui fait du co-living pour handicapés, c'est en train de lever une foncière, donc si vous voulez investir dans une foncière, contactez-les. Cherit et Latitude qui sont sur la tech, donc comment utiliser la tech pour des assos, ou donc si vous avez des compétences en dev, ben, pareil, regardons. Il y a énormément de projets. Et je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment, ben, moi c'est un peu comme ça que j'utilise Epic pour faire un filtre à l'international. Je pense que idéalement, vous nous ferez confiance. Donc si vous n'avez pas le temps, allez sur le site, regardez les assos. Ça prend 20 minutes. Lire les descriptifs, trouvez-en une qui vous plaît et engagez-vous.
Alors sinon, j'ajoute à ça qu'on est toujours à la recherche de nouveaux philanthropes, qu'on est ravis d'élargir notre cercle et que donc vous pouvez aussi nous rejoindre.
Justement, est-ce que y a on va dire, une contribution minimum pour pouvoir intégrer le réseau Entreprendre Plus ?
Oui, alors elle est à 15 000 euros par an.
D'accord, ok. Mmh. Mais c'est important de le dire parce qu'effectivement, il faut avoir les règles du jeu en tête.
Après, il y a un avantage fiscal important. Enfin, il y a une déduction fiscale.
Moi, une fois de plus, je pense que si les gens ont envie de s'engager, on est toujours à l'écoute.
Ouais,
et donc,
absolument.
Je pense que historiquement, on faisait la seule méthode d'accompagnement qu'on avait, c'était on donne une somme tout sur 3 ans, etc. Maintenant, on a cassé les codes en faisant du pré-accompagnement. Donc nous-mêmes, je pense qu'on se remet en cause pas mal, comme on demande à nos entrepreneurs de se remettre en cause pour s'adapter. Donc moi, ce que je dis, c'est plus que de l'argent, c'est du temps. Et c'est vrai que pour nous, ce qui est compliqué, c'est que si vous avez zéro temps, bah, c'est difficile d'être mentor. Mais pareil, on peut prendre une donation, donc l'un ou l'autre, ou même si c'est juste pour avoir une discussion et rejoindre un projet. Moi, je pense que voilà, c'est...
Tout est OK.
Tout est OK, il faut juste trouver un modèle où, en fait, tout le monde gagne d'une certaine manière, il y a une valeur ajoutée. Ce qui est compliqué, c'est des gens qui n'ont pas le temps, pas envie de donner. Donc là, il faut avoir l'envie, je pense.
Bah, écoutez, pour conclure, si vous pouviez raconter Arnaud de Minibus, qui nous a quittés en 2018, comment Entreprendre Plus a façonné votre engagement philanthropique ou tout simplement lui partager une réussite marquante en tant qu'entrepreneur philanthrope, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Moi, je pense que comme c'était un entrepreneur, il comprendrait que quand il est parti, c'était le MVP, c'est-à-dire le Minimum Viable Product, c'était vraiment ça commençait à décoller. Et là, je pense que Elon Musk va faire attention parce qu'on arrive, quoi. on va scaler de malade.
Ouais, moi je dirais, tu avais quand même une sacrée vision qui aujourd'hui s'est réalisée en fait. La vision que tu avais, elle est devenue tangible aujourd'hui. Je crois que lui, son engagement est vraiment né d'une rencontre avec Mathieu Dardaillon. Et donc aujourd'hui, on pourrait lui dire, bah, des Mathieu Dardaillon, on en a 15 à peu près, peut-être plus. Et donc on a démultiplié ta vision en 15-18 personnes qui incarnent des projets, des équipes complètes et avec une alliance qui grossit. Et je pense que des gens qui sont tous contents d'être là.
Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour votre partage.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlene@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.